Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui, par son parcours, par son engagement, a soulevé les montagnes, parfois a fait avancer les choses en tout cas et donne des idées pour qu'on puisse chacun avancer. Nombreuses personnes l'ont rencontré, peut-être en étant pas tout à fait à l'aise dans son bureau parce qu'il a eu une grande carrière de consultant RH et il en a reçu des gens pour justement donner des chemins de vie, des parcours de vie à tracer. Madame, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Heftre.
So good, so good, I got a year.
Bonjour Denis.
Bonjour.
Avant d'attaquer l'aspect entrepreneurial, l'aspect consultant RH, comment tu définis ta fonction justement de consultant en ressources humaines? Quelles sont un peu les valeurs et les missions que tu as en exerçant ce métier, cette profession?
En fait, dans notre métier, on peut exercer ce métier comme étant un métier standard, un métier d'entreprise, un métier de chef d'entreprise, dans une logique purement économique. Et puis on peut regarder ce métier comme étant finalement l'expression et la traduction d'une envie, d'une vision, peut-être d'une vocation. L'idée étant, et je l'exprimais souvent de cette manière-là parce que j'ai fini par la formuler, c'est que mon cœur de métier était de faire en sorte de contribuer à l'équilibre de la relation entre l'homme et l'organisation et de reparler de l'équilibre de ce contrat qui finalement lie les êtres humains dans chacun de leurs engagements. Que ça soit un contrat à titre individuel, le contrat que j'ai avec moi-même, le contrat que j'ai avec ma famille, le contrat que je vais avoir avec la société, le contrat que je vais avoir avec mon entreprise. Et aujourd'hui, le sujet étant d'actualité, le contrat que je peux avoir avec la planète Terre. Et donc cette question du contrat, elle m'est aujourd'hui extrêmement chère et en me retournant derrière mon parcours professionnel, toute mon action a toujours œuvré autour de cet objectif.
Un contrat, ça veut dire deux signataires, ça veut dire des règles, ça veut dire... Est-ce que cette nature de contrat, la nature du contrat a évolué en quelques dizaines d'années de carrière?
Alors oui, évidemment, puisque j'ai démarré dans mon métier de consultant RH dans les années 81-82, inévitablement, on voit bien que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 40 ans, les épisodes de transformation du monde et l'évolution du rapport de l'homme à son monde, l'évolution, comment dirais-je, du rapport de l'homme à l'économie, du rapport de l'homme à l'environnement a considérablement évolué. Et aujourd'hui, avec toutes les multiples crises que nous avons pu traverser depuis cette date, on voit bien que on passe par des ruptures successives, puisque de toute évidence nous sommes rentrés dans un temps où les choses sont en train de se bousculer, de s'accélérer, et où les crises successives nous confrontent, je crois, chaque jour davantage à la question de cet équilibre du contrat.
Alors justement, tu parles de crise, mais on est dans la feel good, donc le but du jeu c'est d'arriver à l'équilibre. Entre la crise et l'acceptation de ces crises pour pouvoir bien vivre, par quoi ça passe? Quelles sont les recettes?
Alors la première recette, hein, pour moi, qui est essentielle, c'est d'être en capacité à d'abord décrire qui je suis, c'est quoi mes forces, c'est quoi ce que je souhaite, c'est quoi la trajectoire que je veux pour moi. Et ensuite, une fois que je suis à peu près au clair sur ces différentes questions, qui sont des questions auxquelles il n'est pas simple de répondre, eh bien, inévitablement, je vais être en capacité à pouvoir savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ce pourquoi je veux dire oui et ce pourquoi je veux dire non. Et donc, d'être en capacité à contractualiser de manière lucide avec l'ensemble des acteurs de mon environnement.
Ce point de départ est donc un peu imbuable. De toute façon, c'est toujours ce point de départ.
Ah, inévitablement.
Même quand il y a une demande qui n'est pas toujours au rendez-vous du côté entreprise, par exemple.
Ouais, la vraie question dans cette affaire-là, c'est de pouvoir savoir comment, puisque c'est l'objectif qui nous relie chacun tous les matins, c'est de savoir comment ce soir je serai encore en vie. Et quand je dis comment ce soir je serai encore en vie, ben on voit bien que les événements que nous sommes en train de traverser dans les dernières 48 heures montrent que le sujet, hélas, redevient plus que jamais d'actualité, y compris dans nos pays. Mais comment je sais rester en vie aussi sur le plan de mon équilibre psychologique, sur le plan de l'image que j'ai de moi.
Même sur les événements que tu fais référence aux 48 heures pour les émissions, pour les gens qui nous regardent avec du décalage, je présume que c'est l'assassinat de l'enseignant à Arras.
Tout à fait. Il y a d'abord cet événement-là, et puis il y a les événements qui sont en train de se dérouler sur la bande de Gaza et Israël. On voit bien aussi les événements qui sont en train de se dérouler en Arménie. On voit bien aussi les événements qui sont en train de se dérouler en Ukraine. C'est-à-dire que, fondamentalement, notre époque nous renvoie d'énormes questions de savoir qu'est-ce que je souhaite accepter de ce que je ne souhaite plus accepter.
Donc face à ces crises, le contrat est devenu de plus en plus important.
Oui. D'où la nécessité de mieux me connaître, d'où la nécessité d'être très au clair sur ce que j'ai envie pour moi, ce que j'ai envie pour mon environnement, ce que j'ai envie pour là où j'ai de l'influence.
Ah, mais alors, je me permets un peu de gratter, parce qu'on parle beaucoup de soi et peu des autres dans ce contrat-là. Comment l'entreprise s'y retrouve alors dans l'autre sens alors?
Le deuxième
co-signataire, il dit
un contrat, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est toujours un bipartite. Et la question d'un contrat, si on veut qu'il dure, il faut qu'il soit profitable pour chacune des parties. Sachant aussi que quand on signe un contrat, nécessairement à un moment donné, on doit lâcher des choses au profit de l'autre.
Face à ces crises, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle lâche ou qu'est-ce qu'elle décide de privilégier aussi dans sa relation contractuelle avec, avec le salarié? Cette évolution-là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux en dire?
Là, il y a véritablement un très fort basculement, et depuis les années 80 où j'ai commencé à travailler, il était évident qu'à cette époque-là, l'entreprise détenait un pouvoir presque suprême et total. Et puis on a vu les choses évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, pour divers éléments sur lesquels je pourrais approfondir, on voit bien que le rapport de force entre l'entreprise et les salariés s'est inversé. Et que globalement aujourd'hui, c'est plutôt le salarié qui détient la clé que l'entreprise. Et l'entreprise est aujourd'hui totalement tributaire de cet élément-là. Et les quelques années post-Covid qu'on a connues a accentué un phénomène qui était, comment dirais-je, qui commençait à être visible depuis une dizaine d'années. À savoir que de toute façon, le monde se transformait, on allait vers un monde très technique, technologique, et qu'inévitablement, le niveau de potentiel requis dans les entreprises était en train de monter. Et inévitablement, avec toute la difficulté d'adaptation et de transformation que l'on peut avoir, tant sur le plan des connaissances que sur le plan du savoir-être. Parce que, finalement, une des grandes transformations structurelles et non pas conjoncturelles auxquelles on assiste, c'est que dans le passé, il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années, la question du savoir était détenue par peu de gens. À titre d'exemple, l'entreprise industrielle reposait sur l'ingénieur étant le sachant. Dès lors où j'étais le sachant, je détenais le pouvoir. Aujourd'hui, le savoir et la connaissance est à disposition de qui veut l'apprendre, qui veut aller la chercher. Et l'arrivée de ChatGPT démontre ô combien cette histoire-là est mise à disposition. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est plus uniquement le savoir et le savoir-faire, ça va être le savoir-être. Donc quelque part, on revient à la question que j'évoquais tout à l'heure, qui est la question de la connaissance de soi.
Le savoir-être a progressé dans les critères de recrutement.
Ah bah évidemment. Puisque de toute façon, aujourd'hui, la majorité du travail qui se réalise au sein d'une organisation se réalise dans la logique de l'interdépendance. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, je ne peux plus faire seul. Donc inévitablement, la question de la relation, la question du savoir-être devient essentielle et clé.
Ce qui est intéressant chez Denis, c'est cette façon de faire à la fois du micro et du macro. C'est-à-dire on fait de la personne et de son projet à un contexte monde toujours intéressant. Et je voudrais, pour illustrer ça, j'ai eu la chance d'être invité à tes rencontres que tu organisais tous les ans, où tu faisais venir un conférencier pour nourrir de la réflexion sociétale de tes clients, de tes... Pourquoi ce choix entrepreneurial, et on va arriver à l'entreprise?
Alors, ça c'est pour moi un élément qui allait de soi. Si je veux, et ça va être cohérent avec mes précédents propos, avoir la négociation d'un contrat qui soit durable, il faut qu'il soit lucide. Si je veux avoir une lucidité, il faut que je comprenne le monde dans lequel je suis. Il faut que je comprenne les éléments de transformation. Il faut que je m'ouvre à la complexité du monde dans lequel on est désormais rentré. Si j'ai pas compris ça, je ne peux pas être un décideur qui prend des décisions de manière éclairée. Je ne peux pas être un acteur, je ne peux pas être un citoyen, je ne peux pas être un être humain qui prend des décisions éclairées si je n'intègre pas les différents éléments qui sont autour de moi. Et regardez comment la planète est devenue petite.
Pour autant, elle reste complexe.
Ah oui.
Parmi ces intervenantes, si on replonge un petit peu, parce qu'avec Denis, tu as créé le groupe ADH avec Martine. On va revenir dans quelques instants. Tu as eu donc l'occasion de faire venir plusieurs intervenants de renommée, ou de spécialistes en tout cas, des évolutions sociétales. Un ou deux noms, un ou deux enseignements que tu as envie éventuellement de nous partager ?
Alors un ou deux noms, il y a eu des moments assez mémorables où quand j'ai fait venir une troupe de théâtre qui s'intitulait Les hommes naissent tous égaux, E-G-O, pas égaux, et où finalement c'est une pièce de théâtre qui mettait en scène une salle d'attente dans laquelle des candidats attendaient pour être reçus. Et évidemment, sur la porte du directeur était marqué le nom Dieu. Et c'était une pièce de théâtre qui finalement remettait très en scène, on est dans les années 90-95, qui remettait en scène quelque chose qui était l'essentiel, non pas d'un paraître, mais d'un être plus profond. Et que c'était bien un élément que j'ai souhaité à l'époque renvoyer à ma communauté. Une autre grande rencontre.
Ça veut dire une notion non seulement d'homme, mais de spiritualité aussi.
Oui, parce que je pense qu'il ne peut pas en être différemment. Même si, d'ailleurs, le mot de spiritualité, il y aurait un très, 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 très long débat à avoir. Un autre exemple, c'est quand j'ai reçu et accueilli, je suis en train de chercher son nom qui est en train de m'échapper, qui est le représentant français du Dalai Lama, Mathieu Ricard. Ouais. Bon, ce fut une rencontre totalement hors du temps parce que Mathieu Ricard est un monsieur assez fou, assez extraordinaire. Quand je dis fou au sens noble du terme, c'est quelqu'un qui a acquis une profondeur, qui a acquis un rapport avec la vie, un rapport avec l'humanité qui est juste invraisemblable, avec une intelligence puissante, une simplicité, une humilité. Et cette soirée-là restera aussi dans ma tête pour très longtemps.
On comprend bien l'enjeu des spiritualités. On va remonter dans le temps avec ton choix musical et on va aller un petit peu à la découverte de Denis Heftre. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les
Les moulins de mon cœur, Michel Legrand.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Pourquoi ce choix musical, Denis ? On remonte.
Ce choix musical, on va le faire très court et très vite. Je rentre en sixième.
Je te crois pas.
Si, on va le faire très vite. Je rentre en sixième et je vais rejoindre la chorale du lycée dans laquelle j'étais, qui s'appelait Les Petits Chanteurs à la Croix de Lorraine, qui appartenait à la Fédération des Puéricans de Torres, comme les chanteurs La Croix de Bois. Et là, cette rencontre avec la musique et la chorale va être une école extraordinaire, à double titre, ou voire à trois titres. Le premier titre, c'est d'abord l'acquisition de l'humilité, parce que quand on chante à quatre voix, une voix toute seule n'a pas de sens. C'est les quatre qui donnent le sens. C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de voilà. Le deuxième élément, c'est qu'avec cette chorale...
Mais on chante tout seul quand même, de temps en temps ?
Ça peut arriver qu'on fasse des solos. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire moi, mais oui. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'avec cette chorale, j'ai parcouru beaucoup de pays dans le monde. Et notamment, on a fait deux tournées assez extraordinaires aux États-Unis, qui nous ont emmenés pendant plus de 5000 kilomètres. Découvrir un monde, il faut rappeler ça, nous sommes en 1973. Et découvrir, prendre l'avion à Roissy, s'envoler, etc., arriver aux États-Unis, découvrir ce que sont les États-Unis, imaginez-vous 120 jeunes qui débarquent, trois bus qui attendent devant l'aéroport, les motards sirènes hurlantes qui vous font traverser Manhattan, des choses comme ça qui seront à vie dans ma tête. Et puis, troisième élément, c'est le côté émotionnel de ce temps-là, parce que c'est ma jeunesse. Cette chanson, c'est un passage assez fou d'un parcours humain. Voilà.
Continuez, monsieur Eftre.
Voilà pourquoi cette chanson, pour moi, représente un cap, un point de repère, un phare, souvenir extraordinaire.
C'est quoi, c'est...
Jeunesse.
Ouais.
Jeunesse.
Ce groupe.
Ouais.
On a gardé des liens, tu as gardé des liens.
Ah oui, on s'est encore retrouvés il n'y a pas très très longtemps. Oui, avec un certain nombre, oui, bien sûr.
Mais c'est quoi ces liens-là ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Quels sont leurs facteurs là, ouais.
C'est difficile à expliquer.
C'est
difficile à expliquer parce que c'est l'émotion de la musique, parce que c'est l'émotion du groupe, parce que c'est l'émotion des rencontres, parce que c'est l'émotion.
Il n'y a pas que la jeunesse, il y a quand même il y a la jeunesse, mais il n'y a pas que ça.
Et puis il y a l'apprentissage du chant choral, et puis il y a l'exigence du chant choral, et puis il y a l'exigence de la partition.
La chorale, c'est quelque chose. Hein. Le film Les Choristes encore, ça a eu un succès, mais ça traduit et ça a relancé aussi.
Ah ben ce film, je crois que je n'ai jamais versé une larme au cinéma, sauf cette fois-là.
On a plein de choses à se dire, mais en même temps, cette jeunesse-là, c'est une première date importante dans ta vie, c'est un choc, c'est un tsunami, tu me disais. C'est le décès de ton papa, tu as 16 ans.
Ouais, j'ai 16 ans, et puis c'est jeune, c'est l'issue d'une maladie longue, comme on dit là, un cancer, mais il faut rappeler ça, on est dans les années 70, hein, 1970, il traitait mal le cancer. Et puis c'est à la fois un coup de massue et en même temps un magnifique coup de pied derrière, qui m'envoie dans la vie, avec la conscience que désormais, t'as pas d'autre solution que de regarder devant toi, parce que derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a plus rien.
Non.
Oh, c'est très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Non, je n'avais plus rien derrière moi.
Donc, fallait que t'avances.
Il n'y avait pas le choix. Et ça a été pour moi un élément de stimulation tout à fait incroyable.
Un moment d'abattement aussi ?
Non. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que la fin était inéluctable, c'était pas un décès subit, c'était un truc qui était lent et destructeur et progressif, et donc non. Alors évidemment, c'est toujours un choc émotionnel, ah oui, c'est évident. On peut pas imaginer ça, mais moi j'ai eu la chance d'être très entouré par quelqu'un que tu connais très bien notamment, qui a été un peu un guide dans la vie à cette période-là. Et inévitablement, non. Mais je le dis souvent, et ça, c'est assez curieux, comment finalement un choc de ce type, un décès de ce type-là, la confrontation à la mort te renvoie à la vie de manière extrêmement violente et de manière très, très définitive.
Tu me disais, par contre, que... On se retrouve seul à ce moment-là et on se doit d'avancer.
On n'a pas le choix.
C'est cette solitude, c'est face à la solitude ou c'est... Quelle est la place de la solitude?
C'était un vrai débat entre 16 ans et 20 ans, ça, avec un monsieur qui était un philosophe que tu connais.
Qu'on salue.
Parce que, globalement, moi j'ai quand même le sentiment que le trajet sur Terre, certes, on a des compagnons de route, mais on est quand même toujours seul face à soi-même.
Tu avances quand même. Et raconte-nous voir un petit peu ton parcours, parce que la deuxième date importante, c'est la création d'ADH en 1986. Donc ADH, on perçoit bien Denis F. Trouvé dans les lettres, cette agence de ressources humaines. Comment tu arrives là?
Comment j'arrive là?
En deux minutes, Denis.
En deux minutes. Je rejoins tout à fait par hasard un cabinet nancéen de recrutement qui faisait quelques petites choses, mais surtout de recrutement. J'y découvre un métier, c'est une véritable révélation pour moi. Je m'y épanouis totalement. Et puis, en 1986, pour des raisons liées à l'organisation de ce cabinet, je suis contraint de prendre la décision de quitter. Et dès lors, ayant eu un vieux rêve d'être chef d'entreprise, je me lance dans l'aventure.
C'était un vieux rêve des années 72, ça, le chef d'entreprise?
Probablement pas de cette date-là, mais pour la suite, oui. Ouais.
Alors, avant, par contre, c'est pas si évident que ça, le trajet de chef d'entreprise vers les RH. Ça passe par un service militaire?
Oui, ça passe par un service militaire, je fais une école d'officier, je me retrouve dans l'armée de l'air, je me trouve
Là, t'as bien les RH?
Non, j'avais pas de vision là-dessus. Et pour le système des amphis de répartition en fonction d'un classement, on a des postes possibles. D'accord. Je choisis un poste d'officier conseil sur la base aérienne de Metz-Frescati. Et là, c'est une révélation parce que je me retrouve confronté à tous les problèmes de ressources humaines. Je me retrouve responsable d'un service. Je me retrouve, à diversité humaine.
Et pour autant, sorti de l'armée, t'embrasses une carrière commerciale.
Oui. Bah oui, parce que j'ai pas compris, parce que j'ai pas vu, parce que personne m'a renvoyé le miroir.
Et le choix, à un moment, il se fait dans un restaurant de commerciaux à Belfort. Tu peux le raconter, ces moments un peu clés quand même. Non mais c'est important pour qu'on puisse se dire, il y a des moments où on fait des choix dans la vie.
Il faut le rapporter à les années 80-81. J'étais dans une superbe entreprise qui est le groupe Legrand, qui est une magnifique maison, qui m'avait recruté, qui m'avait formé, etc. Mais quand vous vous retrouvez un soir, que vous avez 23-24 ans, vous êtes un soir dans une ville de province profonde, que vous êtes dans un restaurant, j'allais dire plutôt pension de famille, et que vous rentrez dans la salle et que vous avez 30 tables, avec sur chaque table une personne, il n'y a pas un bruit dans la salle, et une serveuse lugubre, ce jour-là vous décidez que plus jamais vous allez faire ce métier-là, vous rentrez chez vous et vous démissionnez.
Et donc, tu démissionnes, et là, tu as donc rejoint ce conseil RH, ce cabinet de conseil RH, et tu as ensuite créé en 86 ADH. ADH, aujourd'hui...
Alors, pourquoi le nom, tiens? Tu as souligné, à l'époque, on me recommandait de créer le cabinet de Nieftre. Je n'ai pas voulu, parce que je voulais créer une entreprise et pas le cabinet de Nieftre. Et en fait, on m'a dit, t'as qu'à mettre les initiales. J'ai dit, ok, on va mettre les initiales. Je vous concède ça, mais je ne veux pas davantage.
T'as jamais trop revendiqué le nom, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce cabinet? Comment il a grandi? Comment il s'est développé?
Alors, il a grandi grâce à la cofondatrice de ce cabinet, qui est aujourd'hui mon épouse. Et donc, elle étant, très centrée sur l'activité de recrutement, et c'est centrée sur l'activité... Comment je dirais, elle a géré la tendance de l'intérieur, j'ai géré le développement de l'extérieur. Et c'est comme ça que l'entreprise s'est développée.
Parce qu'on a besoin des deux.
Ah ben oui, parce que dans une entreprise, si vous n'avez pas la tendance qui gère le développement, vous avez beau faire du développement, ça ne marche pas. Et ça ne se transforme pas. Et puis après, derrière la tendance, il y a la question de la gestion. Et donc inévitablement, la question de la gestion, c'est aussi de la tendance. Et s'il n'y a pas de gestion, ça ne marche pas non plus.
Ça, c'est l'affaire de Martine.
Oui.
Mais c'est un peu plus qu'une affaire, puisque là aussi, il y aura un contrat avec elle en 2001, puisque c'est son mariage.
Oui.
C'est votre mariage.
Voilà.
Alors, c'est quoi ce contrat-là, alors?
Ah, ben c'est un contrat...
C'est une organisation ?
Non, c'est bien d'autres choses. C'est un contrat de découverte de l'un et l'autre, c'est un contrat oui, d'une attirance. C'est factuel. Nous avons parcouru le même chemin depuis 1981. Puisqu'elle travaillait au sein du cabinet dans lequel j'ai travaillé. Et donc, nous sommes toujours côte à côte, et voilà.
Oh là là, il est pudique, le Denis F, il s'arrête là. On va continuer un petit peu, quand même.
Non, une belle aventure familiale, une belle aventure humaine. On a toujours tout partagé, une complémentarité. Des hauts, des bas, comme dans tout couple, ouais. Mais...
C'est différent. Voilà. Enfin, tu disais le développement.
Nous étions totalement et parfaitement complémentaires. Elle est plutôt introvertie tout en ayant un fort tempérament, et moi je suis évidemment plutôt un extraverti. Et donc la complémentarité était intéressante.
Et là, tu viens de passer la main du cabinet ADH.
Oui. Alors je viens de transmettre effectivement le groupe ADH, parce qu'il est temps de savoir transmettre. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette question de la transmission, qui pourra nous faire d'ailleurs le lien avec une association que je vais amené à développer en grande région qui s'appelle C'est possible.
Si j'ai même plus le temps de faire les transmissions, alors allons-y, Monsieur Heftre. La fondation C'est possible. Je voudrais bien aussi qu'on parle d'une autre belle fondation à Nancy.
Alors c'est possible.
Commençons par C'est possible.
C'est quoi ? C'est une association nationale qui est présidée par un grand monsieur qui s'appelle Philippe Varin, qui est un grand capitaine d'industrie, qui est bien connu aussi sur la place de Nancy, puisqu'il co-préside le Forum mondial des matériaux.
Ouais,
et que l'objectif de cette fondation, qui a été créée par un ancien DRH de L'Oréal il y a 15 ans, est d'accompagner et de limiter, si possible, le décrochage des jeunes au sein des lycées professionnels. Et avec trois niveaux d'action, des interventions, ce qu'on appelle les conférences repères, à la fois sur les valeurs, à la fois sur le monde économique et à la fois sur l'art, le développement et l'ouverture à la culture, sur la mise en place de mentors qui vont accompagner des jeunes, pas des répétiteurs scolaires mais des mentors, j'insiste bien sur cet élément-là, et puis la nécessité de créer des sortes de clusters d'entreprises autour de ces lycées professionnels. Et nous allons développer tout cela. Et
vous avez besoin de quoi pour développer ?
Alors pour développer, on a besoin de mentors. On a besoin de personnes qui viennent de la culture. On a besoin de gens qui ont des choses à raconter. On a besoin de journalistes. On a besoin de ça, qui sont en capacité à consacrer quelques heures de leur temps de manière bénévole au service de ces jeunes. Et on voit aujourd'hui que notre conférence repère sur les valeurs, elle est plus que jamais d'actualité au vu de ce qu'on est en train de vivre et de la nécessité de pouvoir que notre société fasse contrat.
Il nous reste 1:30 pour parler d'une fondation qui est une institution sur le territoire, c'est la fondation Nicolas Gridel.
Alors la fondation Nicolas Gridel, quelques mots.
Tu es aussi président.
Oui, comment je suis arrivé là, j'ai été amené à intervenir auprès de la précédente présidente pour travailler avec le conseil d'administration sur la stratégie de cette fondation, qui est une fondation qui date de 1880, qui est très ancienne et qui a pour objectif d'accompagner les personnes déficientes visuelles, avec deux objectifs, d'abord de leur donner une éducation pour leur permettre d'accéder à un métier. Et deuxième chose, c'est de leur donner les outils de l'autonomie sociale. Et donc, nous conduisons cette association et les personnes que nous accompagnons, cette fondation, dans la logique de parcours. C'est-à-dire que nous accueillons très tôt des gamins dans le cadre d'un internat, avec une part aujourd'hui beaucoup d'insertion dans le monde de l'éducation réelle et naturel. Ensuite, nous avons un ESAT, nous avons un foyer qui loge les personnes de l'ESAT, et enfin un foyer d'accueil médicalisé qui accueille les plus démunis de ces personnes déficientes visuelles, parce que la nature, comme je le dis souvent, elle est très riche quand elle donne du plus, mais elle est aussi très généreuse quand elle donne du moins, et donc on est plutôt aujourd'hui confronté à du multi-handicap.
Et 5 secondes, pourquoi continuer à s'engager autant, Denis ?
Pourquoi ? Parce que j'ai toujours le sentiment que quand une nation, quand une famille vous a donné, il faut savoir donner à nouveau en retour.
Merci.